Des hommes? Non. Des femmes? Non. Des robots? Non. Des surhommes? Implacables. Insaisissables. Invincibles. Insensibles. Aux ordres d'une super-organisation criminelle. Impossible. Rien n'est impossible pour
Culture Prohibée.
Bienvenue pour ce nouvel épisode de Culture Prohibée. Culture Prohibée, c'est l'émission hebdomadaire de la culture panette du Ciboulot, coproduite par Radio Graphite, graphite.net, et animée par l'équipe des films de la Gorgone, lesfilmsdelagorgone.fr. Culture Prohibée, c'est aussi un profil Facebook et un podcast disponible sur différentes plateformes. Tous les détails sont sur le blog de l'émission culture-prohibée.blogspot.com.
Les choses ont changé, Charlie, depuis que t'es parti. Ça n'a pas été du gâteau tous les jours.
Carcasse nous mène la vie dure.
Mais jusque-là, on s'en est sorti.
Peux-tu nous trouver quelques os pour nos vieux jours?
Pourquoi se contenter de quelques os quand on peut avoir le gros lot?
Charlie, Charlie, regarde, t'as le jackpot! Oh, bravo, Charlie, je suis fier de toi! Charlie, 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 dis-leur!
Oh, un chien se laisse jamais abattre.
Jamais!
Il retombe toujours sur ses pattes. J'ai vu la misère.
C'est exact.
Mordu la poussière.
Sans doute.
Je me suis même fait une fois plaquer par une vieille rombière.
Il
mais je retombe toujours sur mes pas.
Au sommaire aujourd'hui, la première émission d'une série de deux consacrée à des classiques récemment sortis chez nos éditeurs préférés. Nous débuterons par quelques films pour les plus jeunes, à savoir Charlie, mon héros de Don Bluth, paru chez Rimini, et le vieux Kotabiche de Gennady Kazansky, paru chez Artus Film. Quelques révolutionnaires et autres pirates seront de la partie avec 3 pour un massacre, Tepepa, un film de 69 de Giulio Petroni, La Belle et le Corsaire de Giuseppe Maria Scotese, Le Secret de l'épervier noir de Domenico Paolella, 3 titres parus chez Artus Film. Nous aborderons des films mettant en vedette un tout jeune John Wayne, à savoir La Frontière Impitoyable de Carl Pearson, La Rivière Écarlate de Joseph Kane et La Chevauchée Solitaire de Joseph Kane, 3 films sortis en 1935 et 1936, 3 films parus chez Elephant Film. Il y aura également 4 films d'Henri Hathaway parus chez Elephant Film, C'est pour toujours, La Fille du Bois Maudit, Âmes à la mer et Les Gars du Large. L'équipe de Culture Prohibée remercie Sandrine Hiver, Lucie Mautier, Kevin Boissezon, Thierry Lopez, Victor Lopez et Jean-Pierre Vasseur pour leur aide sur cette série d'émissions.
J'ai vu le mal et j'ai fait le bien. La vie vaut la peine d'être vécue, même si c'est une vie de chien. Alors fais gaffe en entendant ce cri. Parce qu'un chien se laisse jamais à non un. Chien se laisse jamais à non un. Chien se laisse jamais à abattre.
Pour causer classique, je suis accompagné d'une fine équipe. Les meilleurs de tous. Et ça tombe bien, ils sont réunis dans ce studio. À savoir Damien Demey, dit la bête noire de Compiègne, un archéologue animal en quête de cultures souterraines et oubliées. Bonjour Damien.
Salutations à toutes les entités conscientes qui nous écoutent.
Également présent dans ce studio, celui que l'on surnomme le loup-garou Picard, créateur de l'émission À l'écoute du cinéma diffusée sur RCA, qui chaque nuit de pleine lune rédige de sanglants écrits pour la revue Prime Cut, dont il est le rédac-chef. Je veux bien sûr parler de Thomas Roland. Bonjour Thomas Roland.
Bonjour Damien Demey, bonjour Jérôme Potier et bien évidemment bonjour à toutes.
Il arrive parfois que le plus jeune membre de notre équipe se prenne d'affection pour des films destinés aux enfants. C'est normal, il n'est encore qu'un jeune homme, qu'un tout jeune homme, qui a encore un 2 au début de son âge, le chiffre 2. Eh oui, on en rêve tous. Bon, nous on a 2 fois son âge, mais on l'aime bien quand même. Donc je veux bien sûr parler de notre ami Damien Demey. Alors Damien, tu es venu avec 2 films pour enfants. Alors un film paru chez Artus Film, le vieux Kotabish, qui est un film venu d'une contrée qui n'existe plus, voilà, réalisé par Gennady Kazansky, voilà, j'essaie de pas faire de bêtises, et qui est donc disponible depuis peu chez Artus Film.
Le vieux Kotabish est un film soviétique, comme tu me dis, d'une contrée qui n'existe plus. Elle raconte l'histoire de Volka, un enfant de 12 ans qui découvre une sorte d'amphore alors qu'il se baigne. Une fois rentré chez lui, il l'ouvre et un génie en sort. Ce dernier s'appelle Hassan Abdul Rahman Ibn Kotab, mais Volka le rebaptise Kotabish. Vieux de 3732 ans et 5 mois, ce génie, en voulant servir au mieux le jeune Volka, va lui faire vivre moult péripéties. Alors, on a affaire à un film pour enfants, comme tu l'as introduit, une comédie fantastique en couleur, adaptation éponyme d'un livre écrit par Lazar Lagin, ou Lagin, je ne suis pas trop certain, qui est également le scénariste du film. Le coup du génie pas très doué, on connaît, mais c'est intéressant de le voir du point de vue de l'URSS quand elle existe encore. Notamment, on a quelque chose qu'on trouve beaucoup dans les films américains et que je trouve intéressant de le voir avec un film de l'Union soviétique, c'est que alors qu'on a une scène qui se passe en Inde, bah, tous les Indiens présents parlent russe. Et ils n'utilisent pas de monsieur ou de madame pour s'adresser aux gens, ils utilisent le mot camarade. Ce qui est assez particulier, mais qui est présent dans pas mal de films russes.
C'est pareil dans les films américains. Ils parlent tous américain, ou alors quand ils sont étrangers, ils parlent américain avec un accent un peu étrange. On a vu beaucoup ça dans les films américains.
Exactement, et c'est pour ça que c'est intéressant. Il y a la présence légère des thématiques du communisme, notamment comme quand Kotabish fait de Volka une sorte de sultan et que celui-ci, d'abord charmé, refuse rapidement d'avoir autant de richesses, car les richesses, il faut les partager. Et qui parle de génie parle d'effets spéciaux. Certains effets spéciaux sont très connus, mais certains interrogent vraiment, car il y a une véritable audace. Par exemple, il y a des moments où le génie change de vêtements en mouvement, et la façon dont c'est mis en place, c'est-à-dire on a des gens autour, et intrigue, on a envie de savoir ce qui se passe. D'ailleurs, l'intrigue est déjà connue, mais le vieux Kotabish montre une adaptation et une vision du monde par l'URSS faisant aujourd'hui preuve presque d'une relique historique, un élément de culture ne pouvant disparaître, contrairement à Mikhail Gorbatchev.
Autre film pour les plus jeunes, un film signé d'un réalisateur qu'on aime bien dans Culture Prohibée, on en parle souvent Damien et moi, mais même Thomas d'ailleurs il l'aime bien aussi, c'est Don Bluth. Et là, comment dire, chez Rimini Édition est ressorti Charlie, mon héros, dont, avec dans les voix quand même Burt Reynolds entre autres, ça le fait en VO. Voilà, mais en tout cas Charlie, mon héros, qui est l'histoire de Charlie, un chien un peu roublard qui est assassiné par le gangster Carcasse. Qui n'a jamais vraiment fait beaucoup de bien dans sa vie, hein, mais qui est pourtant accepté au paradis des chiens. Mais non, Charlie veut se venger. Alors il trouve le moyen de ressusciter, de revenir sur Terre, mais bien sûr, c'est aussi une histoire de rédemption, donc il va venir en aide à une petite fille qui s'appelle Anne-Marie, une orpheline poursuivie justement par le méchant Carcasse. Une orpheline humaine, hein, je précise.
Un Don Bluth de plus, je ne m'arrête plus. Alors, Don Bluth, pour faire de manière très succincte son résumé, parce qu'on l'a souvent fait, a travaillé sur le dessin animé Archie, a travaillé pour Disney sur plusieurs films, avec Spielberg, a travaillé sur le jeu Dragon Slayer, on lui doit Fievel et le Nouveau Monde, ainsi que Anastasia Fievel, dont on a déjà parlé dans une de nos émissions. Ici, on va donc parler de Charlie, mon héros, ou All Dog Go to Heaven, dans sa version originale, ou Tous les chiens vont au paradis, dans sa version québécoise. Alors, comme tu l'as très bien résumé, Jérôme, Charlie, c'est vraiment un chien roublard, quelqu'un à qui on ne peut pas du tout faire confiance. Et malgré ça, il a un partenaire qu'il suit partout, qui s'appelle Gratouille. Tu as parlé de Carcasse, qui est un gangster, mais pas n'importe quel gangster, parce que c'est aussi un chien. Et dès lors, en fait, on a une intrigue qui prend trois fois. C'est-à-dire que Charlie et Gratouille veulent utiliser le pouvoir de Anne-Marie, qui peut parler aux animaux pour leur propre bénéfice. Vu qu'ils l'ont récupéré, ça enquiquine bien Carcasse. Anne-Marie demandant de l'aide à Charlie et à Gratouille pour se trouver une papa et une maman, elle étant orpheline. Et Carcasse faisant tout son possible pour de nouveau assassiner Charlie et récupérer finalement Anne-Marie. L'histoire est simple, en dépit d'un résumé qui peut être complexe. Pour les voix, tu l'as également dit, on retrouve Burt Reynolds en Charlie, ce qui est totalement incroyable. On retrouve Dom DeLuise en Gratouille, qui est un habitué des doublages. De façon plutôt funeste pour Anne-Marie, on retrouve la jeune Judith Barcy, dont le film sort à titre posthume et qui avait déjà fait du doublage pour Don Bluth dans Le Petit Dinosaure et La Vallée des Merveilles. Et enfin, Carcasse est doublé par l'incroyable Ken Page, dont sa performance en Oogie Boogie dans L'étrange Noël de Monsieur Jack d'Henry Selick lui garantit mon amour éternel. Alors, Charlie, mon héros, est un véritable plaisir. C'est le film de Don Bluth que je trouve le plus drôle. Comme d'habitude, c'est un enchantement de découvrir des films 2D et de redécouvrir la même saveur que j'ai eue la première fois que j'ai découvert certains Disney. D'ailleurs, c'est peut-être moi, mais je vois également beaucoup de références à ce studio. C'est-à-dire que l'orpheline ressemble beaucoup à Blanche-Neige, que ce soit dans ses vêtements ou ses couleurs. Le couple qu'elle rencontre, la femme, est une fusion entre Cendrillon et Aurore dans La Belle au Bois Dormant. L'homme du couple ressemble à celui des 101 Dalmatiens, c'est-à-dire Roger Radcliffe. Et de plus, l'alligator du film est immédiatement introduit à côté de la montre de vie de Charlie, rappelant fortement Peter Pan.
Il y a aussi un sticker de Mickey à un moment, enfin je ne sais plus quoi. Don Bluth vient de chez Disney et il leur fait la nique. Là, il est au sommet de sa carrière, de sa gloire, qui sera courte malheureusement. Mais effectivement, il y a de la vraie provoque à embêter un peu Disney là.
Oui, ce que le film aura du mal à faire finalement, parce qu'il est sorti en même temps que La Petite Sirène, qui marque le renouveau de Disney et qui, même si Charlie, mon héros, ne sera pas descendu au niveau du box-office, ça lui prendra un coup. Finalement, Don Bluth a le don de varier ses histoires avec des thèmes parfois très adultes, tout en gardant l'innocence de son récit. Il livre un film drôle, émouvant, d'une grande beauté, et de tous ses films, c'est aujourd'hui mon préféré.
Je suis d'accord avec toi, et même l'aspect aller au paradis, t'as l'aspect un peu bon dieuzard, un peu biblique, qu'on retrouve souvent chez Don Bluth, quand même. Et pas très gênant, parce qu'en fin de compte, tout ça se fait dans une sorte de joie, de bonne humeur. Il y a un côté irrévérencieux un petit peu, même si Don Bluth n'est pas un anticlérical. Ça, c'est sûr que là-dessus... pour moi, c'est le meilleur Don Bluth. Je suis d'accord avec toi. C'est celui où son animation est le plus maîtrisée, c'est le plus beau. Et la mise en scène est excellente. Parce que je pense que ce qui a fait qu'il a plu à Spielberg, qu'il a travaillé avec Spielberg, c'est parce que c'est un vrai metteur en scène. Ce n'est pas qu'un animateur. Et la qualité de sa mise en scène, de ses plans, de ses choix de mise en scène, de réalisation, ses panoramiques, ses plans d'ensemble, ses cadres qui se resserrent, tout ça. Il y a un gros travail de mise en scène chez Don Bluth qu'on ne retrouve pas forcément dans tous les films d'animation. Et à l'époque, Don Bluth, il est au sommet de l'animation mondiale. On l'oublie un peu, il est au sommet de l'animation mondiale avec quelques autres, comme Katsuhiro Otomo et tout, qui arrivent, qui sont plutôt du côté du Japon. Mais plus gros succès mondial, c'est les films de Don Bluth. Et effectivement, la renaissance de Disney va mettre un coup fatal à la carrière de Don Bluth. Écoutez Culture Prohibée spéciale classique.
Je suis un pirate, oui, un vrai pirate. Le plus sanguinaire, le plus redoutable, le plus cruel, le plus fort de tous les pirates qui écumaient les mers et sillonnaient les océans.
Tous les chiens vont au paradis peut-être, mais je ne sais pas si tous les pirates vont au paradis. Et les corsaires. Je vais quand même vous parler de La Belle et le Corsaire, qui est un film de Giuseppe Maria Scottese, qui est un film de 1957, film qui raconte l'histoire de pirates qui écument la Méditerranée, qui sont menés par le sauvage Nadir El Krim, qui est en fait pas trop sauvage en fin de compte, hein, d'ailleurs, quand on voit le film. Et dans son château, le baron Camerlata accueille Catherine d'Autriche, la sœur de l'empereur Charles Quint. Les pirates vont assiéger le château afin d'enlever la dame et demander rançon, mais ils séquestrent par ailleurs la nièce du baron, la belle Angela. Il va falloir tenir avant l'arrivée des troupes impériales. Voilà. Voilà un postulat classique de film à la fois de pirates, de cap et d'épée, voilà, tel qu'on pouvait en voir beaucoup à une époque. Le film a quand même l'avantage d'être soutenu par une bonne distribution. Et je pense là en particulier à Gianna Maria Canale, la grande actrice italienne qui était aussi la femme de Riccardo Freda, qu'on peut voir dans Les Vampires. C'est elle qui a cette scène de vieillissement, concoctée par Mario Bava d'ailleurs, qui est excellente. Et puis il y a John Derek, hein, qui deviendra le mari de, qui vous savez, Beau Derek, en tout cas pour les gens de ma génération, ça parle évidemment, et qui après passera sa vie à faire des films avec sa femme toute nue dedans, voilà, dont des adaptations assez croquignolesques, par exemple de Tarzan, hein, qu'il faut avoir vu au moins une fois dans sa vie. Voilà, c'est pas bon du tout, hein, je vous le dis tout de suite. Bon, le film... La Belle et le Corsaire, dans la dernière salle là, de Artus Film, c'est quand même pas le meilleur. C'est un film classique, j'ai envie de dire peut-être un peu trop classique. Ça manque un peu de... Voilà, ça manque un peu de rythme, ça manque un peu d'action. Bon, Gianna Maria Canale est très bien, John Derek est très bien. Mais je trouve que l'autre, Le Secret de l'Épervier Noir, est bien bien meilleur. Parce qu'ils ont sorti deux films de pirates en même temps. Alors celui-ci se regarde, c'est un film divertissant. L'édition est belle, hein, parce que ce sont des belles éditions chez Artus Film. Mais il y a des trucs qui prêtent un peu à rire. Par exemple, Nadir El Krim qui arrive déguisé en troubadour, des choses comme ça. Enfin bon, allez, ça passe. Mais il faut avoir gardé son âme d'enfant, quoi. On est quelque part entre le film pour enfants et le film pour les plus grands. Par contre, le secret de l'épervier noir... C'est tout autre chose. Alors déjà, c'est un film réalisé par Domenico Paolella, qui n'est pas le plus grand metteur en scène de l'histoire du cinéma italien, loin s'en faut, mais qui est un metteur en scène très solide. Hein, on lui doit Massis contre les Mongols, Hercule des fils Spartacus. On lui doit un sous Django pas mal, Django prépare ton exécution, qui est plutôt correct. Et Paolella signe avec Ce secret de l'épervier noir, un film qui ressemble plus à une sorte de film d'espionnage, d'aventure, que de film de pirate classique. Hein. Artisan solide, donc sans génie, mais appliqué. Et qui va là s'appliquer à mettre en scène quand même un acteur fort sympathique, c'est Lex Barker. Le bondissant Lex Barker, qui interprétera très nombreuses fois, en tout cas pour les gens de ma génération, Tarzan au cinéma par exemple, il n'y a pas eu que Johnny Westmuller, il y a eu Lex Barker. Et il y a aussi, au scénario, pas n'importe qui, Sergio Solima. Eh oui, Sergio Solima au scénario, c'est la garantie quand même de passer un moment. On va resituer un peu Sergio Solima très vite. Revolver ou La Poursuite Implacable, vous l'appelez comme vous voulez, un des meilleurs polidioteschi de la grande époque en Italie. Trois westerns, dont deux qui sont des chefs-d'œuvre, hein, c'est Colorado et Faccia a Faccia, le dernier face à face. Saludo Sombra est un peu moins bien dans la trilogie, mais enfin, c'est très très haut, hein, d'un niveau très très haut. Voilà, Solima, exceptionnel cinéaste, d'ailleurs dont le fils reprend plutôt bien le flambeau, puisqu'il a travaillé entre autres, il est à l'origine de cette superbe série qui est Gomorra, par exemple. Voilà. Et cinéaste aussi très politisé. Bon, là, dans le scénario, ça se sent peut-être un peu moins. Voilà. Mais en tout cas, il nous concocte un film d'aventure où il y a beaucoup de bagarres, beaucoup de retournements de situation, plein de mystères. Voilà. Le scénario est plein de choses trappes. C'est très agréable. Et puis, ce qui est très étonnant dans ce film à la reconstitution soignée, au montage nerveux, même très sec, c'est très très étonnant. Je ne sais pas si Paolella était fan d'Anthony Mann, mais le montage est très très sec. C'est vraiment très réussi. Ce qui est assez étonnant, c'est une irruption de scène assez violente, en fait. Il y a des moments assez violents dans le film qui sont très, très étonnants. On est en 61, donc c'est... Par moments, c'est assez relevé. Donc, je vous conseille vivement, vivement, surtout que c'est soutenu par une superbe photo de Carlo Bellero, un très bon chef-op. Et je vous conseille vivement ce film, qui est une sorte de James Bond avec des pirates. Voilà, c'est assez, assez chouette. Écoutez Culture Pouille. On retrouve Franco Solinas, le scénariste, justement, des westerns de Solima dont je vous parlais. Scénariste, communiste, politisé, voilà, qui signe le scénario d'un film de Giulio Petroni avec, excusez du peu, Thomas Millian, Orson Welles et John Steiner dans les rôles principaux. Ça s'appelle « Trois pour un massacre » ou « TPPA », si vous préférez. Et Artus nous sort le film dans sa version de 2h12. Enfin, on peut voir ce film dans sa version intégrale. Et c'est quand même par le réalisateur de La mort était au rendez-vous. Excellent western italien. Et Trois pour un massacre est pas loin d'être un des tout meilleurs. En tout cas, c'est un très très bon western. Voilà. Ça vaut pas El Chuncho, ça vaut pas les films de Solima dont on parlait. Mais quand même, parce que El Chuncho, le mercenaire aussi de Corbucci. Tout ça, c'est des scénarios de Solinas. Hein. Ça vous fixe le niveau du bonhomme. Alors, évidemment, qu'est-ce que ça raconte? On est en plein conflit mexicain. Le révolutionnaire Jesús María Morán, alias TPPA, est sur le point d'être exécuté par les hommes du colonel Cascoro. Alors, évidemment, TPPA, c'est qui? C'est Thomas Millán, truculent, magnifique, qui fait le rôle de sa vie, hein, le révolutionnaire mexicain. Il l'a fait quand même pas mal de fois. Et évidemment, celui qui veut le capturer et l'exécuter, c'est Cascoro. Et Cascoro, eh bien, évidemment, il est joué par Orson Welles. Mais heureusement, TPPA est sauvé par le docteur Henry Price. Le docteur Henry Price qui est joué par John Steiner, le très bon John Steiner. Et là, surprise, surprise, en fait, il ne l'a pas sauvé de la mort. Il l'a sauvé, Dr. Price, parce qu'il veut aussi le tuer, mais de ses propres mains. Voilà. Donc, à partir de là, débute une sorte d'épopée assez extraordinaire, qui est effectivement, comme d'habitude, un film hautement marxiste. Mais par contre, ce qui est très étonnant, Solinas, dans ce film, il laisse transparaître. Alors déjà, il fait une analyse, parce qu'on peut lire en filigrane tout ce qui s'est passé dans l'Italie de l'après Seconde Guerre mondiale, et en particulier, c'est un film sur la déception des partisans communistes qui avaient combattu et qui ont permis d'éliminer Mussolini, puisqu'il a été tué par ses partisans, hein, par ses communistes, permis d'éliminer Mussolini et les chemises noires, qui ont été après mis au rebut, et d'ailleurs qui ont enterré leurs armes qu'ils donneront, enfin en tout cas dans certaines, selon certains de leurs fondateurs, qu'ils donneront ensuite aux fondateurs des Brigades Rouges, pour qu'ils reprennent le flambeau. Alors, évidemment, du coup, ça donne un film qui, derrière le côté comique, a un goût amer, laisse un goût amer, surtout lorsqu'il est fini. C'est aussi un film où, évidemment, bah, notre ami Franco Solinas laisse libre cours à ses penchants anticléricaux, très très fortement, voilà. Et après, c'est un film très très ambitieux, dans le sens où c'est un film où le film fonctionne par flashback, et il y a parfois des flashbacks dans les flashbacks, enfin voilà, donc il faut suivre, il faut être très attentif, et c'est un film qui a bien sûr, qui au final a un message assez noir, assez sombre, hein. Est-ce que l'être humain, en fin de compte, est capable d'engendrer autre chose que la mort, que de semer la terreur? Est-ce qu'il est capable d'appliquer une idéologie de manière, progressiste, ou est-ce que ça se finit toujours en massacre? Voilà, c'est un peu ça la question que pose le film. C'est un film quand même assez sombre, et c'est aussi un film très beau, avec une superbe photo, une musique de Morricone aux petits oignons, et puis il y a des plans, il y a des panoramiques par moments. Enfin, c'est somptueux, voilà. Le film connaît quelques baisses de rythme, quand même. Hein. C'est plus flagrant dans cette version intégrale. Mais ça reste une date dans l'histoire du western italien que je vous conseille vivement. Je vais changer d'éditeur après Artus Film, mais je vais toujours vous parler de western. Voilà. Je vais vous parler d'œuvres de jeunesse qui mettaient en vedette un certain John Wayne. Alors, c'est trois films. C'est The New Frontier, King of the Pecos et The Lonely Trail. La frontière impitoyable, La rivière écarlate et La chevauchée solitaire. Le premier est de 35, La frontière impitoyable. Et les deux autres sont de 36. Le premier est signé Carl Pearson. Pearson, je ne sais pas trop comment le prononcer. Voilà. Et le deuxième et le troisième sont signés Joseph Kane. Alors, c'est des films qui étaient des films faits à la chaîne pour le studio Republic Pictures, hein, qui faisait beaucoup de serials, tout ça, voilà. Et à l'époque, John Wayne n'est pas du tout une vedette, hein, il est pas connu. Mais on essaie déjà de capitaliser sur lui et d'essayer de faire une vedette de ce Marion Robert Morrison, qui s'appelle Marion John Wayne, il faut le savoir, voilà, qui était un peu homme à tout faire sur les tournages. Il faisait parfois le figurant, il faisait le cascadeur aussi, il apportait les cafés, il faisait l'assistant, il faisait l'accessoiriste, enfin voilà. Et il va être consacré deux, trois ans plus tard, par John Ford avec La chevauchée fantastique. À ce moment-là, on sent qu'il a un truc, mais ça ne marche pas. Il est encore un peu pâteau, encore un peu... Voilà. Et là, dans ces films-là, c'est simple. Hein. C'est l'histoire de John Dawson dans La frontière impitoyable, shérif de frontière, une ville où règne un bordel monstre. Et il y a un dangereux gérant de saloon, hein, qui est Ace Holmes, qui terrorise tous les habitants. Et évidemment, John va devoir se battre, avec l'aide d'un groupe de hors-la-loi, hein, contre ces méchants. Et puis, à la rivière écarlate, où John Claiborne, après que ses parents aient été assassinés, 10 ans plus tard, à chaque fois John Wayne c'est le héros, hein, dans ces histoires, donc 10 ans plus tard après l'assassinat de ses parents, John Claiborne revient, hein, pour se venger de leur meurtrier, un certain Alexander Stiles. Mais John Claiborne décide de se venger par le droit et non pas par les armes, voilà, puisqu'il a fait des études entre deux. Ce sacré John Claiborne. Et enfin, il y a La chevauchée solitaire, qui raconte l'histoire de John Astley, qui s'appelle souvent John, hein, quand même. D'ailleurs, il s'appelle John dans les trois films, là, c'est pas compliqué. Qui, bien qu'ayant combattu pour l'Union durant la guerre de sécession, revient chez lui au Texas, où il est accueilli très froidement par les habitants, anciens confédérés. Mais surtout, la ville est tombée sous la coupe d'un certain Benedict Holden, qui n'hésite pas à piller et tuer pour le simple profit. Et ça, notre soldat ne peut pas l'accepter. Voilà, notre ami John Wayne ne peut pas l'accepter. Alors, on retrouve souvent les mêmes acteurs dans ces films produits pour pas très cher et tourné à la chaîne. C'est pour ça aussi que sans doute ils ont les mêmes prénoms de film en film, parce que peut-être qu'ils tournent très très vite les films à la suite, voire en même temps. C'est pas impossible. Donc c'est souvent les mêmes acteurs. Par exemple, dans les deux premiers films que j'ai cités, Muriel Evans joue la petite amie de John Wayne. Dans les deuxième et troisième films que j'ai cités, c'est Cy Kendall qui fait le méchant. Voilà. Alors, dans ces trois films sont tous fort sympathiques. Se regardent avec plaisir. C'est des bons petits westerns de série qui sortent pas spécialement du lot. Par contre, il y en a un qui sort du lot. C'est La rivière écarlate. Moi, je trouve que c'est le mieux. C'est le western où il y a le plus d'action. C'est le western où il y a le plus de rythme. Et la question qui est posée, c'est est-ce que notre héros va réussir à faire justice sans tirer le moindre coup de feu, parce que c'est un peu le but qui s'est fixé dans ce film où il a décidé de faire confiance à la loi, John Wayne. Ben ça, vous le verrez si vous regardez le film jusqu'au bout. Les deux autres films sont distrayants. Je retiendrai dans La frontière impitoyable le méchant qui n'est pas joué donc par Cy Kendall, mais par Hal Bridge, qui est très bon en méchant. D'ailleurs, il éclipse quand même notre ami John Wayne, hein, qui est un peu falot à l'époque, et qui s'efface un peu devant le méchant. Prohibée spéciale classique. Je vais rester chez Elephant Film pour vous parler encore de films classiques et surtout d'une série de quatre films signée Henry Hathaway, accompagné d'ailleurs d'un beau livret qui s'appelle Redécouvrir Henry Hathaway, qui est signé Denis Rossano. C'est un livret très complet, très érudit sur le sujet, sur le réalisateur Henry Hathaway. éléphant de film a exhumé donc 4 films d'Henri Hathaway, pas forcément très très connus, pour nous démontrer en fait qu'Henri Hathaway est un réalisateur plus important que ce que l'histoire du cinéma en a retenu, en tout cas qui ne mérite pas le relatif oubli dans lequel il est aujourd'hui. Mais les cinéphiles que nous sommes et qui ont vu Peter et Benson savent que Henri Hathaway peut être un grand metteur en scène. Donc là, je vais vous parler des films dans l'ordre de sortie au cinéma. On va commencer par une comédie un peu étrange, comédie un peu malaisante. C'est un film sorti en 1934 qui s'appelle C'est pour toujours, Now and Forever, et qui met en vedette Gary Cooper, qui, avec Carole Lombard, sa copine, mais pas la mère donc, de la fille en question, essaye d'élever une petite Shirley Temple. Et en fait, il se révèle être une sorte d'inadapté. Et c'est Shirley Temple, avec sa petite bouille mignonne, Shirley Temple, enfant star, qui fait la morale à son père et à celle qui est sa compagne. Voilà, donc sa belle-mère. Et en fin de compte, sous l'aspect comédie, c'est un film très très noir. C'est pas une comédie en fait. Hein, voilà, mais ça démarre un peu comme une comédie avec cette gamine qui fait la morale à son père, tout ça. Et en fin de compte, on se rend compte que c'est un film assez dur, assez sombre. Et Gary Cooper n'est pas un sale type. C'est juste un éternel adolescent en fait. C'est un inadapté, c'est un arnaqueur assez inconséquent qui aime sa compagne, qui aime sa fille, mais qui est incapable de l'élever. Il ne s'est jamais occupé d'elle. D'ailleurs, dans le film, il récupère sa fille. Il la prend sous son aile, mais il s'en était jamais occupé, en fait. Il vient juste de la récupérer, quoi. Voilà. En termes de mise en scène, bon, Hathaway utilise il aime bien filmer de près le visage de Gary Cooper. Bon, quand même, Gary Cooper, c'est un sacré acteur. Il campe avec beaucoup de talent cet éternel adolescent incapable de mûrir, quitte à en souffrir gravement. Ensuite, il y a un autre film de 1936 de Henri Hathaway. Je trouve un peu moins bon, hein, par contre, même s'il y a la belle Sylvia Sidney en vedette. Faut toujours voir un film avec Sylvia Sidney, parce qu'elle a vraiment une beauté particulière, quelque chose de singulier. Et il y a un Henry Fonda tout jeune. Henry Fonda tout jeune, c'est un de ses premiers rôles importants. Et c'est La fille du bois maudit, donc The Trail of the Lonesome Pine. Ça se passe dans les montagnes de l'Est du Kentucky à la fin du 19e. Et c'est deux familles voisines qui se font la guerre pour, je ne sais même plus pourquoi d'ailleurs, voilà, pour des raisons un peu oubliées. Puis un jour, il y a un ingénieur qui arrive pour construire une voie ferrée. Et il trouve donc une conciliation avec les deux clans. Mais cet homme amène aussi les mœurs de la ville dans ce coin reculé des États-Unis, ce qui va provoquer effectivement des tensions, voilà, et des histoires un peu compliquées, voilà. Alors du coup, ça donne un film un peu bancal, un peu étrange, puisque c'est à la fois un western, à la fois un mélodrame. Bon, je trouve que le côté mélodrame prend pas toujours. Pour la petite histoire, c'est le premier film en technicolor trichrome à être tourné dans des décors réels. Voilà. Donc, évidemment, on voit que ça intéresse Hathaway, qui s'amuse à utiliser toutes les possibilités que permet le format, qui s'amuse à travailler sur la profondeur de champ. Donc, c'est plutôt intéressant. Après, sur cette confrontation civilisation, ville contre campagne, voilà, bon, on a vu mieux, même si Henri Fonda a déjà beaucoup de talent. Et fait preuve de beaucoup de charisme. Mais bon, je trouve que ce film, s'il reste regardable, reste plutôt anecdotique. Et il emporte notre adhésion uniquement pour un Henri Fonda qui trouve un de ses premiers grands rôles. Et puis une Sylvia Sidney qui est toujours fascinante, comme d'habitude. Autre film qui est sorti l'année suivante, 1937, Souls at Sea, âmes à la mer. Donc d'Henri Hathaway, avec Gary Cooper encore. Il aimait bien Gary Cooper, Henri Hathaway. George Raft, 36 D et Henry Wilcoxon. Et en fait, c'est un film, il faut savoir qu'il y a une histoire particulière. La Paramount Pictures voulait concurrencer les révoltés du Bounty. Alors du coup, ils vont chercher Henri Hathaway. Henri Hathaway leur dit, moi je vais vous faire un blockbuster avant l'heure. Hein. Voilà, un grand film de 2h30 à la Cécile B2000. Mais en fait, Les producteurs ne voient pas du tout les choses de cet avis. Quand il arrive avec son montage, son film et tout, il coupe tout dedans, il ramène le film à 1h30. Voilà. Donc le film fera 1h30 pour pouvoir permettre un certain nombre de séances en salle, tout ça, un entracte, tout ce que vous voulez. Et donc, du coup, bon, bah, évidemment, le film, on aurait pu se dire, il va en pâtir, mais non. Moi, je trouve que c'est le meilleur film de tous les films là qui nous sont proposés. Peut-être que les producteurs avaient raison de ramener 1h30. Parfois, les producteurs ont raison, faut le dire. Le film raconte l'histoire de Taylor, un marin qui a été contacté en raison de son passé par les autorités pour infiltrer le milieu des esclavagistes. Et à bord d'un navire, il y a une altercation avec un sympathisant des négriers, à la suite de laquelle le bateau prend feu. Il organise l'évacuation et ordonne à l'équipage de sauter. La femme qu'il aime le dénonce alors. Voilà. Tous les ingrédients sont là pour avoir, comment dire, autour de ce thème des marins négriers, hein, qui est un thème qui a été plusieurs fois évoqué au cinéma, pour faire un film d'aventure trépidant, avec un Gary Cooper au top dans le rôle de Nuggin Taylor. De Nuggin Taylor, je vais le prononcer du mieux possible, qui est un personnage très énigmatique. Et petit à petit, on va deviner quelles sont les motivations qui le poussent à effectuer cette mission. Alors en plus, Nuggin Taylor, c'est un peu un intellectuel, on croirait sorti d'un bouquin d'Elmore Leonard. Il a toujours des grandes tirades, il s'exprime très bien. Et d'ailleurs, il a face à lui George Raft, qui fait une sorte de marin décérébré, un condensé de violence. Voilà. Et donc, évidemment, l'antagonisme fonctionne très bien. La scène du naufrage que je viens de décrire est absolument bluffante. Et évidemment, Gary Cooper est sensationnel. Et voilà, des bons sentiments, de l'aventure, la justice, tout est au rendez-vous. Et Hathaway signe là l'un de ses meilleurs films, en tout cas dans ceux que j'ai vus. Et pour moi, le meilleur film de cette vague de films là qui nous est proposée. Le dernier, c'est Les Gars du Large, Spawn of the North. C'est un film américain réalisé par Henry Hathaway également, bien sûr, évidemment, sorti en 38. Et c'est un film qui met encore en vedette la George Raft, Henry Fonda, il y a aussi Dorothy Lamour, et il y a John Barrymore dans un rôle un peu plus second. John Barrymore, qui est le grand-père de qui vous savez, hein, voilà. Et deux pêcheurs de l'Alaska, Tyler Dawson, donc George Raft, et Jim Kimmerly, Henry Fonda, se connaissent et pêchent ensemble depuis toujours sur deux bateaux différents. Tyler, ayant contracté une grosse dette, est amené à collaborer avec des voleurs de saumon. Jim refuse de le croire jusqu'au jour où il prend son ami d'enfance sur le fait. Les événements vont alors prendre une tournure dramatique. Voilà, alors, le film, certes, est un peu prévisible, parce qu'il y a beaucoup d'indices qui s'accumulent, on voit un peu tout ce qui va se passer à l'avance, mais disons qu'on a l'impression que celui-là, Hathaway, il était moins inspiré derrière la caméra, mais ce qui est rigolo, puis il y a même on nous fait le coup de l'animal gentil camarade des hommes, voilà, donc tout ça qu'on retrouve, mais par contre, heureusement, il y a John Barrymore, qui est très drôle, hein, et il y a ce qui est intéressant dans ce film, c'est que c'est un film qui a une charge homo-érotique certaine. Voilà. Puisqu'on devine, entre George Raft et Henry Fonda, qu'il y a plus que de l'amitié sincère. Quoi. Voilà. La manière dont c'est filmé, les regards langoureux qu'ils se jettent, je ne sais pas si c'est volontaire ou involontaire, en tout cas, le film, aujourd'hui, fait très Brokeback Mountain quoi, avant l'heure. Enfin, c'est assez rigolo. Voilà. Donc, bien sûr, on reste dans les limites de la bienséance, on est en 38 hein, quand même. Hein, voilà. Tout cela est illégal d'ailleurs à l'époque. Hein, voilà, il va le rester encore un moment. Du coup, ça offre un petit cachet en plus à ce film d'Henry Hathaway. There once was a ship that put to sea, and the name of that ship was the Billy of Tea. The winds blew hard about it down, blow me bully boys blow. Soon may the wellerman come to bring us sugar and tea and rum. One day when the tonguing is done, we'll take our leave and go. She had not been 2 weeks from shore when down on her a right whale bore. The captain called all hands and swore he'd take that whale
sail in tow. Ha! Soon may the wellerman come to bring us sugar and tea and rum. One day when the tonguing is done, we'll take our leave and go. Before the boat had hit the water, the whale's tail came up and caught her. All hands to the side, harpooned and fought her when she dived down below. Soon may the wellerman come to bring us sugar and tea and rum. One day.
C'était Culture Prohibée, une émission réalisée en partenariat avec les films de la Gorgone et la revue Prime Cut. Culture Prohibée est disponible en balado-diffusion sur différentes plateformes. Toutes les réponses à vos questions sont sur le profil Facebook et le blog de l'émission culture-prohibée.blogspot.com. Culture Prohibée était une émission préparée et animée par votre serviteur Jérôme Potier et dit La Gorgone, assisté pour la programmation musicale d'Alexis Admiral Lee. Une émission animée avec Damien Demédi, la bête noire de Compiègne, Thomas Rolandi, le loup-garou Picard, and the last but not the least, je veux bien sûr parler de Léo Manien à la technique. Salut les gens, à la prochaine.
As far as I've heard, the fight's still on. The line's not cut and the whale's not gone. The wellerman makes his regular calls to encourage the captain, crew and all. Soon may the wellerman come to bring us sugar and tea and rum. One day when the tonguing is done, we'll take our leave and go. Soon may the wellerman come to bring us sugar and tea and rum. One day when the tonguing is done, we'll take our leave and go. Oh.